décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 21, salut Mag.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, pas de Manu cette semaine. Il est puni. Bon, il n'est pas puni, il est parti en famille.
C'était la fête des mères hier.
Et oui, et donc il est parti voir sa maman. Mais il nous a quand même préparé une petite revue de presse.
Une belle revue de presse qui commence par développer.com, Google et Facebook sous le coup de 4 accusations dans 4 pays pour avoir enfreint le RGPD par Stéphane Le Calme.
Bah, c'est un petit ami à nous qu'on connaît bien, hein, Marc Schrem, qui avait déjà attaqué Facebook par le passé et qui du coup revient pour faire la peau aux GAFAM via le RGPD. Donc il nous promet encore pas mal d'attaques en justice et on verra bien ce que ça donnera.
On en reparle tout à l'heure d'ailleurs. Les yeux du monde, la bataille pour le logiciel libre en Afrique par Louis Vialet.
Donc un article qui fait le point un peu sur l'état du logiciel libre en Afrique, qu'est-ce que ça apporte en termes économiques ou autres pour faciliter le développement. Ça explique un peu tout le processus et qu'est-ce qui se passe là-bas exactement.
Il faudrait qu'on en reparle plus en détail une prochaine fois.
Oui, tout à fait.
Comment ça marche.net, des ateliers pour préparer la fête des libertés numériques par Perrine Tibergien.
Donc c'est une initiative qui s'est montée pour la publication du RGPD où il y a eu pas mal de petits événements pour expliquer comment on pouvait reprendre le contrôle de sa vie numérique. Donc ça a été organisé dans un peu toute la France ces derniers temps.
Le journal du CM, lumière sur la licence Creative Commons par Guillaume Gersan.
Un article qui fait le point sur ce que c'est les Creative Commons et qui explique tout le détail de pour qu'est-ce que c'est une licence Creative Commons non commerciale, non dérivative, etc. Donc si vous voulez choisir une licence, lisez cet article-là.
Sachant qu'un dans les Creative Commons, il y a des licences libres au sens strict et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est important de savoir faire la différence.
ZDNet France, Montréal précise son engagement pour le logiciel libre par Thierry Noisette.
Donc on parle régulièrement de Montréal dans nos revues de presse, et là ça fait le bilan de qu'est-ce qui se passe exactement là-bas, pourquoi ils ont fait les choix de l'open source ou du libre en termes de solutions, en termes de renouvellement de leur parc informatique, et ça montre leur vision qu'ils ont sur les 10 prochaines années.
Et le dernier article, lemonde.fr, le ministère de l'enseignement supérieur dévoile l'algorithme principal de Parcoursup par Soizic Lenévé.
Et bien ça fait suite à ce qu'on a parlé la semaine dernière sur la publication de Parcoursup. Donc ça explique comment ils ont fait leur choix de publication, qu'est-ce que ça implique pour les étudiants maintenant, et aussi les problèmes qui restent encore à résoudre avec cet algorithme.
Notre sujet de la semaine donc sera que partiellement couvert par la revue de presse. Il y a d'autres choses qui sont passées qu'on a trouvées assez intéressantes, notamment du côté de ces GAFAM que nous adorons critiquer, et notamment du côté de Google, pour son service bien connu, Google Maps.
C'est ça, ils ont unilatéralement décidé de changer leur politique tarifaire.
En accord avec eux-mêmes ?
Voilà, c'est ça. Du coup, tout le monde s'est retrouvé un peu à court, parce qu'ils ont annoncé ça en disant, on revoit complètement notre politique d'usage gratuit, enfin ce qu'ils appellent le fair use, donc quand vous payez pas pour consommer leur service. Et ils ont annoncé des tarifs qu'on fait x50, x100, x1000, en fonction de ce que vous utilisez.
En fonction des seuils.
Mais voilà. Comment ça peut être x50 quand c'est rien?
Eh bien en fait c'est parce que c'était pas vraiment rien, c'était rien quand vous étiez en dessous d'un certain volume de pages consommées. Donc en gros c'était aux alentours de 10 000 ou 20 000 pages vues par jour. Et en fait ils ont transformé ça, le par jour, en par mois. Et donc du coup y en a plein qui étaient 10 000 requêtes par
L'inverse,
jour.
L'inverse tu veux dire?
Non, parce que c'était 10 000 par jour, donc vous avez droit à 300 000 requêtes dans le mois. Et puis là en fait maintenant vous avez plus qu'à 10 000 requêtes dans mois. Et du coup vous allez vous retrouver avec des factures exorbitantes. Avant vous étiez à zéro. Et des exemples qui donnent montrent que vous passez de 0 à 4 000 $ par mois. Et donc tous les petits services qui utilisaient Google Maps comme ça, ils voulaient pas payer ou parce qu'ils avaient pas un usage très important de ce service, vont devoir le quitter parce que c'est carrément trop cher pour la plupart des utilisateurs.
Alors, moi je bosse un éditeur informatique et qui fait un usage assez important de Google Maps. Et c'est pas simplement des petites boîtes, c'est qu'il y a plein de PME. Quand Google est arrivé avec ce service de Carto, il était facile à utiliser, il marche bien, on peut pas nier ça. Et du coup, il y a plein de boîtes comme la mienne qui ont dit c'est facile. À l'époque, c'était totalement gratuit ou presque, il fallait vraiment y aller pour payer. Du coup, c'était facile, c'était rapide et c'était confortable. Donc du coup, plein de gens s'y sont mis, y compris des entreprises qui ont les moyens.
Y compris notre gouvernement sur les sites.
Voilà, tout le monde en a mis partout. Et puis au bout de quelques années, ils ont déjà augmenté les tarifs une première fois. Et c'est un aphorisme qu'on aime bien utiliser dans le logiciel propriétaire, mais qui est tout aussi valable pour les services. C'est comme la drogue, la première dose est gratuite. Donc en gros, on a un service qui est un service de qualité. On le met pas cher, voire gratos, pour que les gens viennent. Ils construisent des solutions dessus, ils sont dépendants. Et une fois qu'on a acquis un réservoir de clients potentiels suffisamment important, et qu'ils sont dépendants, qu'ils peuvent plus partir, là, paf, on monte les tarifs. Et ils en sont donc à leur deuxième montée. Et puis là, ils y sont allés manifestement comme des bourrins. Ils sont en train de presser le citron et dire, bah, maintenant, on va ramasser le pognon, quoi.
Après, c'est aussi un avantage pour les solutions libres, puisque du coup, OpenStreetMap a repris le flambeau là-dessus, parce que bah, tous les services qui veulent pas payer, en tout cas pas ces montants-là, à Google, commençaient à migrer vers OpenStreetMap pour intégrer les pages, les maps, les cartes à leur site internet et se passer du coup de Google.
Il y a vraiment eu quelque chose de raté de ce côté-là, parce que bah, moi, en tant que bon libriste, j'avais fait du boulot en interne au niveau de ma boîte il y a de ça 5, 6, 7 ans, en disant... OpenStreetMap est en train de monter en force. On ne demande pas d'investir des sommes colossales dedans, mais au moins de commencer à mettre des billes, parce que c'est intéressant de se développer un fonds carto qui soit à nous. En plus, ça, on a des concurrents, mais ce n'est pas là-dessus qu'on se fait concurrence. Les concurrents aussi, ils mettent du Google Maps. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où, parce que c'était facile et qu'on n'a jamais voulu investir sur une solution alternative et qu'on n'a pas voulu voir à long terme, on se retrouve tous à égalité, entre guillemets, à devoir payer des fortunes, mais ce qui fait que les solutions qui sont vendues par toutes les boîtes de la branche, tous les gens qui utilisent ça, bah, elles deviennent non rentables ou beaucoup plus chères, donc plus difficiles à vendre, etc. Donc là, il y a clairement un choix de, entre guillemets, de confort et de pragmatisme. C'est l'idée qui vient, c'est « oh bah ça marche, je suis pragmatique, je prends la solution, paf, paf ». Et au final, bah, voilà le résultat, quoi.
Ça pose aussi le problème, en fait, des business models, parce que Google doit aussi très bien savoir ce qu'ils font, et ils ont dû lancer le service Google Maps gratuitement pour que tout le monde se lance dedans, tout le monde l'installe partout et que ça soit vraiment propagé dans tous les coins. Et une fois que tout le monde est bien ferré, bah hop, on change toutes les conditions, on change les tarifs, etc. Et on peut plus sortir du marché, parce que c'est trop coûteux, en fait, et qu'on va préférer payer 4000 euros par mois que de... prendre un développement supplémentaire pour tout migrer et refaire des tests avec OpenStreetMap, etc. C'est un marché ultra captif et un peu piégeux. Il y a beaucoup de services en ce moment qui sont en train de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. Et les utilisateurs n'ont pas le choix que de suivre le mouvement parce que ça leur coûte moins cher que de tout migrer.
Ça ressemble de plus en plus à du logiciel propriétaire, tout ça, en fait.
C'est la même logique, effectivement.
Ils ont imposé leur produit qui était gratuit, ils ont maintenant un monopole total et ils en profitent.
Et oui, il n'y a pas que, hein. On peut penser à un service comme par exemple Copain d'Avant, qui avait fait fureur il y a de ça 10-15 ans. Oui, bah, Copain d'Avant, c'était gratos, tout le monde pouvait s'inscrire et une fois qu'ils ont accumulé plein de données, qui sont les données des gens, hein, bah, ils les ont rendues payantes. Ils ont dit, bah, maintenant, si vous voulez vous abonner, si vous voulez prendre contact avec les gens, etc., bah, faut raquer. Et ça, c'est un grand classique et c'est quand même assez malheureux de voir que bah, tout le monde continue à mettre les pieds dedans et à ne pas voir le coup venir, hein, même si c'est un coup sur 10 ans.
Tu m'étonnes que les gens se méfient.
Et il y a eu un peu dans le même genre, on en parlait avec Mark Schrem et le RGPD, où les grosses boîtes type GAFAM ont eu aussi une position dominante qu'ils ont pu abuser, puisque quand il y a une relation prestataire-client habituelle, le client a normalement le moyen de mettre de la pression sur son prestataire pour qu'il fasse le boulot.
Ouais, parce que dans le RGPD, il y a cette idée qu'on peut pas dire « Ah bah, c'est pas chez moi, c'est ailleurs ». Dès lors qu'on a un fournisseur, un prestataire, qu'on est en lien avec quelqu'un, on doit s'assurer qu'il soit en règle avec le RGPD.
Voilà. Et du coup, les boîtes qui ne sont pas des GAFAM, ben les clients, donc qui sont pas les clients finaux, hein, qui sont les clients intermédiaires, donc des entreprises qui utilisent d'autres services, ont pu faire pression sur leurs prestataires pour se mettre en conformité avec le RGPD dans le sens qui les arrangeait, alors que Google a dit « Non, nous on fera le RGPD comme ça, ou plutôt on ne fera pas le RGPD du tout. On abuse de notre position dominante pour forcer le contrat dans le sens qui nous arrange. »
En gros, à tous les gens qui utilisent les services Google, ils ont dit bah, « c'est à vous de vous assurer que les données sont propres, et nous, on fait que les récupérer, et tout est de votre responsabilité ».
C'est ça. Et donc, si vous voulez continuer à utiliser Google, vous avez beaucoup, beaucoup de boulot de votre côté, et voire des impossibilités de compatibilité avec le RGPD. Mais ils disent « nous, on ne fera absolument rien, on ne va pas bosser gratuitement pour vous ». Donc, ils aiment bien filer des services gratuits, mais ils ne fournissent pas, eux, de prestations gratuites.
Pourtant, ils ont les moyens. Hein.
Pourtant, ils auraient les moyens, hein, mais c'est vrai qu'après, ça casse le business complètement. Et donc,
leurs prestations ne sont pas toutes totalement gratuites. C'est-à-dire, quand on voit le CAPTCHA, là, le truc qui est, je ne suis pas un robot et on doit signaler sur une photo toutes les vendeurs de magasins, tous les panneaux de circulation. On travaille gratos pour Google parce que c'est avec ça qu'ils alimentent notamment leur voiture autonome et leur algorithme super intelligent n'est pas encore assez intelligent pour se débrouiller sans que des humains aillent cataloguer.
Oh, le CAPTCHA, c'est pas forcément pour ça, hein, puisqu'il y a aussi l'image où il y a un papillon, l'image où il y a un chat.
Oui, oui, mais après, il y a d'autres business de reconnaissance de forme qui sont intéressants.
Ah, puis maintenant, ils commencent à entraîner leurs drones de militaires aussi avec les Google CAPTCHA pour savoir sur qui tirer. Donc, et pareil, il y en a plein qui ont halluciné quand ils ont vu ça passer, ils ont dit mais attendez, nous on veut pas mettre ça sur notre service, quoi, on veut pas entraîner des drones de guerre. Et bah ouais, mais Google a dit bah vous avez pas le choix, hein. Soit vous travaillez pour nous là-dessus, soit vous quittez le service et on vous laisse pas d'autres
topics. Il n'y a pas des CAPTCHA libres qu'on pourrait.
Alors il y a des alternatives.
Faire de la pub, voilà.
Il y a des alternatives qui ont commencé à arriver. J'ai plus le nom en tête. Le nom, si c'est pas Libre CAPTCHA d'ailleurs, ou qui font l'équivalent de ReCAPTCHA en version libre et qui fonctionne pareil et qui évite de passer par les GAFAM.
Donc on voit comment le fait d'être important, lourd et d'être en position de force, comme toujours, hein, c'est pas un truc qui est particulièrement lié au numérique ou l'informatique, bah finalement, ça permet d'imposer aux autres sa façon de faire, sa volonté, ses tarifs, ses conditions.
Ouais, mais ça commence un peu à se voir beaucoup, en fait, depuis quelques temps. Il y a quand même pas mal de services comme ça qui changent un peu de positionnement, qui quittent le monde du tout gratuit pour enfermer les clients dedans, qui changent unilatéralement leur politique, qui n'a pas été aidé par le RGPD. Il y en a beaucoup qui ont fait, par exemple, Twitter, qui vient de dire « Eh, bah, moins de 16 ans, vous n'avez pas le droit. » Et tout le monde s'est retrouvé bah, le bec dans l'eau parce que on était ultra dépendant de Twitter ou de Facebook pour faire de la com, pour faire de la publicité. Et puis bah, là, on a 25% de notre audience qui vient de disparaître comme ça d'un trait de plume avec, par des choix unilatéraux des GAFAM.
Encore un solo de 2006 qui a fait du nettoyage. Et donc, on parlait dans notre premier article de Max Schrem, donc, qui est un Autrichien qui s'était déjà distingué alors qu'il était étudiant en droit en allant titiller Facebook en disant « Envoie-moi toutes mes données comme le droit le demande ».
C'est en 2011 qu'il s'est attaqué à Facebook. Il avait déjà été actif en 2009. Et là, effectivement, il avait reçu des cartons et des cartons et des cartons de papier parce que bah, forcément, Facebook lui avait envoyé du papier.
Oui.
Totalement inexploitable. Et heureusement, ça avait été reconnu comme inexploitable en 2015, donc 4 ans après, par la Cour de justice de l'Union européenne. En gros, il dirige une initiative qui s'appelle Europe versus Facebook depuis des années. Et il est à la tête d'une association, d'un groupe de protection de la vie privée. Alors, noib.eu, noneofyourbusiness.eu.
Et donc, c'est comme lui qui avait fait tomber le Safe Harbor, hein, qui avait déclenché plein de bordel.
Le Safe Harbor, il faut rappeler quand même ce que c'est.
C'était un texte qui disait qu'en gros, les États-Unis étaient conformes avec la loi européenne. Et donc,
et du comme coup, on est entre copains.
On est entre copains, donc vous pouvez envoyer toutes vos données là-bas. Et du coup, ce truc-là était tombé grâce à Max Schrem, qui avait justement montré via les documents qu'il avait récupérés de Facebook que, bah, hey, regardez, j'avais demandé la suppression de tel message. Et puis, bah, en fait, c'est bizarre, je le revois dans mes papiers. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Et en plus, il avait donné pas mal de pistes à Facebook pour leur dire bah, voilà ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, chiffrez vos données, évitez de les envoyer aux États-Unis, mettez vos data centers en France ou en Europe. Et bah, Facebook s'était complètement assis dessus. Et donc, il a été jusqu'au bout de sa démarche. Et donc, il a fait péter le Safe Harbor et qui a donné lieu derrière au Privacy Shield, qui est la suite du Safe Harbor, mais du coup plus restreint, à e-Privacy, qui est dans les cartons en ce moment au niveau de l'Europe, et un peu au RGPD aussi derrière, qui a dit ouais, stop, on va arrêter les conneries. Quoi. Donc, ça promet du lourd au niveau juridique, je pense qu'il va pas lâcher le morceau.
Un gars qui a de la suite dans les idées.
Voilà.
Et le mec, il porte pas plainte qu'en Autriche, hein. Il porte plainte en Allemagne, en Belgique, en Irlande, un peu partout, quoi.
Bah ouais, bah il est citoyen européen, donc il profite de ses droits. Il profite
puis
de
il
ses
a
droits,
associations
quoi.
Avec.
Il a des associations, donc voilà, mais ça risque d'être assez fun.
Non, mais ce qui est cool, il ne fait pas que porter plainte. À chaque fois qu'il s'en prend à Facebook, puisque manifestement, lui, son dada, c'est Facebook, bah, il propose des données, il propose d'autres alternatives, comme, bah, je sais pas, déplacer les données que Facebook retient, bah, les mettre en Europe, hein, les chiffrer, hein, tant qu'à faire, quitte à les stocker, bah, autant les stocker correctement, ou même revoir la structure des entreprises. J'adore Facebook qui imagine, allez bien, on va tout restructurer.
Est-ce que restructurer, c'est souvent éclater en plusieurs entreprises plus petites?
Oui, et puis surtout d'éviter le recoupement des données, que chaque entreprise, ou en tout cas chaque entité, n'ait pas accès à l'intégralité des données Facebook, mais à bien cloisonner ce qu'on fait et pas avoir tout en un seul endroit. Quoi.
Alors, on rappelle qu'en France, la Quadrature du Net mène une initiative de ce type-là, consistant également à attaquer en justice les GAFAM. Donc, allez sur leur site pour voir de quoi il en retourne. Ben, on espère que toutes ces démarches juridiques vont porter leurs fruits. On voit que Max Schrem a déjà un certain passif derrière lui. Ça promet des moments très très amusants. On a fait le tour, à peu près. On se retrouve la semaine prochaine.
Salut.
Bonne semaine à tous.